Aujourd'hui, quand même, c'est un dimanche spécial, un dimanche de célébration parce que nous avons le repas du Seigneur qui est un moment très important pour la communauté de la famille de Dieu. Et ce matin, nous concentrons sur certains des bienfaits qu'on a reçus en Jésus-Christ. En passant, c'est notre frère Richard Nestor qui va nous conduire dans la Sainte-Seine tout à l'heure. La Sainte-Seine nous rappelle les bienfaits que nous avons reçus à la croix et à la résurrection de Jésus. Un de ces bienfaits, c'est le fait que maintenant nous sommes une famille. Hein? On est, en venant à Christ, nous sommes devenus frères et sœurs les uns des autres. Donc, prenons un moment maintenant pour nous saluer les uns les autres avec une bonne poignée de main ou un bisou fraternel. Alors, je vous donne quelques minutes pour saluer votre voisin, votre voisine au nom du Seigneur. OK, tout le monde? OK, c'est pas la fin, c'est pas la fin de la célébration, là. Faut revenir. Revenez, les amis. Donc, un des bienfaits, on fait partie de la famille de Dieu. Un autre bienfait qu'on reçoit en Jésus-Christ, c'est le pardon, la source incommensurable de pardon qu'on a à la croix de Jésus. Et vous savez que déjà dans l'Ancien Testament, on le voit venir. On va lire un psaume maintenant qui va être le psaume du message ce matin. Et Jessica va nous aider avec ce message. C'est en fait basé sur une étude que Jessica a faite dans un cours à l'école biblique où elle a été pendant l'année. Vous avez peut-être remarqué qu'elle était absente cette année. Elle était à l'école biblique en Allemagne. Elle nous a beaucoup manqué aussi à nous. Et elle a fait un gros travail sur le psaume 51, un psaume de confession et de réconciliation avec Dieu. Et c'est ce qu'elle va nous partager dans quelques instants. Alors, merci beaucoup d'avance, Jessica. Mais ce qu'on va faire pour nous familiariser avec le psaume, nous allons le lire, mais nous allons le lire comme psaume responsorial. Un psaume responsorial, ça veut dire que dans le cadre de la célébration, on va le lire ensemble. Moi, je vais lire une partie et vous, avec Jessica, allez lire une autre partie. C'est comme si moi, je dis une partie et vous me répondez avec l'autre partie. Alors, si on avance à la première diapo, voyez-vous, ça c'est le psaume qui commence. Ce qui est écrit en petit, moi, je vous le lis. En fait, je le lis à Dieu parce que c'est une prière. Et ce qui est en bas, en caractère gras, c'est vous qui le lisez, en me répondant à moi, mais en même temps, on offre ça à Dieu. Donc, c'est une manière de prier le psaume ensemble en le lisant dans le cadre de la célébration. Est-ce que vous comprenez? Oui, je pense que Barry faisait ça des fois, autrefois, ici dans cette église. Et donc, c'est ce que nous allons faire maintenant. Et donc, Jessica et moi, on va se passer le micro. Et quand Jessica prend le micro, vous... Voilà. Non. On essaye... Quand même, il faut que ce soit solennel et concentré. Exactement. OK, on y va? Psaume 51. Au chef de cœur, psaume de David, lorsque le prophète Nathan vint chez lui après son adultère avec Bathsheba. Ô Dieu, fais-moi grâce conformément à ta bonté, conformément à ta grande compassion, efface mes transgressions.
Lave-moi complètement de ma faute et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi.
J'ai péché contre toi seul. j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. C'est pourquoi tu es juste dans tes paroles, sans reproche dans ton jugement.
Oui, depuis ma naissance, je suis coupable. Quand ma mère m'a conçu, j'étais déjà marqué par le péché.
Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais-moi connaître la sagesse dans le secret de mon être. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige.
Fais-moi entendre des chants d'allégresse et de joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes fautes.
Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de toi. Ne me retire pas ton Saint-Esprit.
Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne.
J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi.
Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé et ma langue célébrera ta justice. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche proclamera ta louange.
Si tu avais voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. Mais tu ne prends pas plaisir au holocauste. Les sacrifices agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et humilié. Dans ta grâce, fais du bien à Sion. Construis les murs de Jérusalem.
Alors, tu prendras plaisir aux sacrifices de justice, aux holocaustes et aux victimes tout entières. Alors, on offrira des taureaux sur ton autel.
Amen.
Donc, je vais commencer par prier, si ça vous va. Seigneur, merci pour cette opportunité qu'on a d'être ensemble aujourd'hui. Puis, je prie aujourd'hui que ton Saint-Esprit me remplisse de ta paix. Puis, je prie que ce ne soit pas mes mots ce matin, mais que ce soit tes mots à travers moi. Que ton nom soit glorifié. Amen. Donc, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un passage sur lequel j'ai fait un travail d'exégèse à l'école biblique en Allemagne. Ce qui est intéressant, c'est qu'on avait une liste de passages différents qu'on pouvait choisir. Puis j'ai choisi le psaume 51 parce que c'était le passage le plus court. puis je me suis dit, bon, je vais me faire un petit travail de 5 pages. 20 pages plus tard, j'ai réalisé que le psaume 51 est très riche en contenu. Puis j'espère qu'il va vous bénir ce matin comme il m'a béni. Le psaume 51 se trouve dans les livres poétiques de la Bible. Les psaumes peuvent généralement être classifiés comme étant des psaumes de louange, des psaumes historiques, des psaumes éthiques, des psaumes cérémoniels, messianiques ou de jugement. Mais le psaume 51, c'est un psaume pénitentiel, c'est-à-dire que c'est un psaume de repentance. Ce passage, en fait, a été écrit par le roi David, donc le dirigeant du Royaume-Uni d'Israël, à la suite de son péché d'adultère avec Bathsabée. Donc, pour ceux qui ne se rappellent pas de cette histoire, on trouve le récit dans le deuxième livre de Samuel, dans le chapitre 11. Le péché de David a eu lieu lorsque David a envoyé son armée, donc Joab, puis les hommes du roi, aller se combattre contre les Ammonites, alors que lui-même, il est resté à Jérusalem dans son palais. Puis, une nuit, du toit de son palais, il remarque une femme en train de se baigner. Puis, il apprend que c'est Bathsabée, qui était la femme d'Uri, qui était un soldat hittite qui se combattait avec l'armée de David. Donc, il a fait venir Bathsabée à son palais, plutôt, puis il coucha avec elle, puis elle est tombée enceinte. Donc, par la suite, David, il a conspiré pour que son mari Uri soit tué. Puis il a écrit à son commandant Joab, « Placez Uri au plus fort du combat et retirez-vous de lui, afin qu'il soit frappé et qu'il meure. » Donc, il a fait ceci pour dissimuler son identité. Oh, merci. Pour dissimuler son identité en tant que le père de l'enfant. Finalement, il a épousé Bathsabée, qui a donné naissance à son fils. Donc. Par la suite, le prophète Nathan vient au roi d'Israël, il vient voir le dirigeant du peuple de Dieu, puis le prophète dit, « Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à tes yeux? » Donc, Nathan il informe par la suite David que bien que sa vie serait épargnée, celle de son enfant ne le serait pas. Donc, l'enfant, en fait, il est mort 7 jours plus tard. Donc, à la suite de cette interaction avec Nathan, c'est là qu'il va écrire le psaume 51. Puis c'est là où il fait une prise de conscience de son péché, en fait. Ultimement, qu'est-ce que Dieu essaie de nous dire à travers les mots de David? Qu'est-ce qu'on peut sortir? Qu'est-ce que nous, des pécheurs comme David, pouvons comme comprendre de ce texte qui est saturé d'émotions brutes? Puis d'après moi, ce qu'on peut comprendre, c'est « viens à moi ». Dieu est en train de dire « viens à moi ». Viens à moi en toute vulnérabilité. Viens à moi avec un cœur qui est brisé, un cœur qui est contrit, mais que je ne vais pas mépriser. Viens à moi, puis je vais être ton confort. Donc, il y a 3 volets que je vais discuter ce matin. Dieu dit « viens à moi » à David, puis il dit « viens à moi » à chacun de nous. « Viens à moi, car je t'aime et je suis miséricordieux. Viens à moi pour être purifié. Puis viens à moi, car ton péché n'est pas la fin de ton histoire. » Donc, c'est les 3 points sur lesquels je vais parler aujourd'hui. Donc, on voit dans le psaume 51 que David fait une prière de repentance et de supplication en se basant sur la prémisse que Dieu l'aime, puis que Dieu est miséricordieux. On pourrait dire que la supplication de David est fondée ou repose sur des traits de caractère qui sont décrits dans Exode 34, 6 et 7. « Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, « L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent. » Donc, David sait très bien qu'il fait affaire à un Dieu de jugement, à un Dieu souverain, puis à un Dieu de justice, mais ici aussi, il fait un peu appel à l'amour et à la miséricorde de ce Dieu. Si on lit ensemble le verset 3, on lit « Ô Dieu, fais ma grâce, cela selon ta bienveillance ou selon ta bonté. » Je me suis donné la liberté de paraphraser la parole de Dieu un peu. Donc, je me suis basée sur la version en anglais. Donc, nous, on voit « Fais-moi grâce conformément à ta bonté ». Puis, en fait, en anglais et en hébreu, le mot « miséricorde » est utilisé à la place du mot « grâce », puis le mot « amour » est utilisé à la place de « bonté ». Donc, comment on peut interpréter le verset 3? C'est « Ô Dieu, montre-moi ta miséricorde conformément à ton amour inépuisable ». Donc, ce qui est intéressant, c'est que moi, je ne savais pas qu'il y avait une différence entre la grâce et la miséricorde. Donc, je vais clarifier ça avec vous. On sait donc que la grâce, c'est le fait de recevoir quelque chose qui n'est pas mérité. Donc, c'est comme un cadeau. Tandis que la miséricorde, c'est le fait de ne pas recevoir quelque chose qui est mérité, donc une punition ou un jugement. Donc, dans le contexte du psaume 51, puisqu'on fait affaire à un péché, ce serait plus la miséricorde. Donc, dans les versions anglophones puis hébraïques, en fait, c'est vraiment le terme miséricorde qui est utilisé. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'en hébreu, le mot miséricorde dérive du mot rehem. Rehem, c'est un mot très important. Puis ce mot se réfère, en fait, au ventre ou au sein de la mère. Donc, c'est comme si, en faisant appel à la miséricorde de Dieu, David, il fait aussi appel à l'amour indescriptible qu'a une mère pour son enfant. Puis, quand je pense à ça, je trouve ça vraiment incroyable, puis ça me dit beaucoup, parce que c'est vraiment la forme d'amour humaine et animale la plus puissante qui existe. Puis, je me rappelle quand ma cousine, elle a eu son premier enfant, elle m'a dit qu'en donnant naissance dans les douleurs de l'accouchement et tout, elle s'est tournée vers son mari, puis elle a dit, on ne fait plus jamais ça, comment tu as osé me faire ça? Comment, tu sais, jamais, jamais, jamais. Puis aussitôt que l'enfant est sorti, elle a dit qu'il y a vraiment eu comme une montée d'émotions indescriptible. Puis elle a dit, elle a senti un amour qu'elle n'avait jamais senti avant. Puis elle a dit, c'était un amour qui était illogique, c'était un amour qui était féroce, qui était puissant, qui était juste, c'est complètement incroyable. Puis elle s'est tournée vers son mari, puis elle a dit, finalement, on peut en avoir un autre. Donc, donc, ce qui est intéressant ici, c'est que l'amour maternel auquel on fait référence avec ce mot « rehem », faut comprendre que l'amour que Dieu a envers David est encore plus puissant, encore plus féroce et encore plus indulgent que l'amour d'une mère envers un enfant. Puis, ultimement, ce verset nous pointe vers notre Sauveur Jésus-Christ. Dans Tite 3:5, on lit « Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, selon son amour. » Dans le psaume 51, on voit que Dieu fait non seulement l'appel à la miséricorde de Dieu, mais aussi à son amour inébranlable et à son amour inépuisable. En hébreu, le terme utilisé à la place de amour ou bonté est « hesed ». Puis ce terme en rapport avec la relation entre les deux parties d'une alliance. On trouve dans Exode 19, 4 et 5 que Dieu fait une alliance avec le peuple d'Israël. Il dit « Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples. » Donc, l'alliance que Dieu a avec les Israélites est caractérisée par sa grâce et son amour. L'Israël est sa plus précieuse possession. Tout ce qui est demandé d'Israël est de respecter les stipulations de cette alliance. Puis si on lit l'Ancien Testament, on voit qu'ils ont échoué à ce niveau-là. Encore et encore, les Israélites, ils se rebellent contre Dieu. Mais qu'est-ce que Dieu fait? Il les poursuit sans relâche. Il leur démontre un amour qui est scandaleux puis qui est totalement illogique. Puis, je pense que ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que David, lui, il a violé son alliance avec Dieu. Quand on lit les 10 commandements, on voit un commandement par rapport au meurtre, on voit un commandement par rapport à l'adultère et un commandement par rapport à la convoitise. Donc, 3 sur 7 commandements ont été complètement négligés par le dirigeant du peuple de Dieu. C'est vraiment. Puis je pense qu'il fait cette réalisation dans les versets 5 et 6 où il dit Car je reconnais mes crimes ou mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait le mal à tes yeux en sorte que tu seras juste dans ta sentence. Puis c'est intéressant parce que David n'a pas seulement péché contre Dieu, il a aussi péché contre Uri et contre Bethsabée. Puis moi, je me dis, waouh, mais il réalisait que vraiment, ultimement, son péché était contre Dieu. Puis ça, c'est vraiment intéressant d'après moi. Il comprend aussi que Dieu a une incompatibilité divine avec le péché. Il dit, détourne ton visage de moi, détourne ton visage de mon péché. Dans Habacuc 1:13, on lit, tes yeux sont trop purs pour voir le mal et tu ne peux pas regarder l'iniquité. Donc vraiment, dans le psaume 51, on voit que David fait appel à l'amour d'un Dieu qui va le pardonner. Il sait que seul l'amour de son Dieu de pardon pourra le délivrer du fardeau de ce péché. Donc, la supplication de repentance de David est fondée sur le rehem et le hesed de Dieu, sa miséricorde et son amour. Puis ça, c'est le premier point. Le deuxième point que je veux partager avec vous aujourd'hui, c'est que Dieu nous invite à venir à lui. Il dit « Viens à moi pour être purifié ». L'expression « efface mes transgressions » est vraiment intéressante ici, parce qu'en fait, dans Ésaïe 43, 25, c'est la seule autre fois où on voit le même terme utilisé dans la Bible. Puis ça dit « C'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. » Je ne me souviendrai plus de tes péchés. C'est quand même quelque chose. L'interprétation très populaire de cette expression « d'effacer les péchés », c'est l'image d'un rouleau de papyrus sur lequel Dieu aurait marqué toutes les malconduites du roi David. Puis le fait d'effacer les péchés, c'est le fait de rendre David acceptable aux yeux de Dieu. David dit par la suite, « Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. » Donc, il se réfère à des méthodes de lavage d'habits employées en Moyen-Orient. Dans cette tradition, les textiles étaient piétinés jusqu'à ce que toutes les taches disparaissaient. Donc, je trouve ça vraiment fou parce que c'est comme si David dit « Écrase-moi, Dieu, brise mes os, brise-moi si ça veut dire que je vais être pardonné. » Puis, je pense à mon cheminement, puis je me dis, moi, souvent, mon orgueil m'a vraiment empêché d'être aussi désespéré pour du pardon. Je pense qu'on a souvent tendance à s'auto-justifier ou auto-justifier notre péché. Mais ici, David, il est tellement désespéré qu'il dit, tu peux comme venir me piétiner comme on piétine le textile pour qu'il soit propre. Donc, plusieurs thèmes sont utilisés dans le psaume 51 qui ont rapport avec la purification. On voit « lave-moi », on voit « blanc comme la neige », on voit « l'hysope ». Sur votre bulletin ici, il y a l'hysope, en fait. Puis, c'est une plante qui était utilisée dans un rituel pour purifier une personne ou un habit. Puis, c'était une ordonnance sacerdotale. Je sors les grands mots théologiques. Sacerdotale, ça veut dire « pour un prêtre ». Donc, les prêtres, à l'époque, des fois, ils mettaient l'hysope, donc cette plante, dans leur nourriture, puis ils la mangeaient. Puis ça, c'était pour purifier la nourriture, pour ensuite se purifier eux-mêmes. Puis on voit que l'hysope est mentionné une couple de fois dans la loi juive. Donc, David fait appel à ça. Donc, il fait appel à plusieurs sortes de purifications différentes pour être purifié lui-même. Puis, il a été taché comme un habit sale par son péché, mais le pouvoir lavant, seul le pouvoir lavant de Dieu, le rendra plus blanc que la neige. On lit dans Ésaïe 1:18, « Venez et plaidons, dit l'Éternel, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. » David reconnaît aussi qu'il a besoin de présenter une offrande. Il reconnaît qu'il n'a pas besoin de présenter une offrande pour demander le pardon, parce qu'il se rend compte que c'est un cycle infini. Il va présenter une offrande, péché, devoir présenter une autre offrande, péché, devoir présenter une autre offrande, puis c'est un cycle infini. Puis ça, ça nous pointe encore vers Jésus. Lorsque nous avons attribué notre culpabilité sur Jésus sur la croix, il a agi comme un substitut divin sur la croix pour le péché, mais le substitut ultime. Donc, le péché, notre péché, sa mort nous a purifiés de nos péchés une fois pour toutes. Donc, je vais vous laisser avec, pour ce point-ci, on va finir avec Jean 1:17. Nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Donc, en fait, il faut se rappeler que le sang versé, seul le sang de Jésus qui a été versé à la croix pour nous, nous donne accès à la communion avec le Dieu trois fois saint. Puis ça, c'est une grande liberté. Donc, bref, Dieu, à travers le psaume 51, moi, je vois qu'il dit « Viens à moi pour être purifié ». Finalement, Dieu nous dit « Viens à moi car le péché n'est pas la fin de ton histoire ». C'est mon point préféré. Le péché de David n'est pas la fin de son histoire ou de son héritage. Si on regarde les Écritures, David est gardé en très haute estime. David a régné sur tout le royaume d'Israël avec droiture, avec justice. C'est un dirigeant puissant. Il a donné naissance à Salomon, qui était le roi le plus sage d'Israël. Mais surtout, dans les Écritures, on voit qu'encore et encore, il est décrit comme un homme vivant selon le cœur de Dieu. Un homme vivant selon le cœur de Dieu. C'est tellement un bel héritage. Mais je dirais que l'aspect le plus honorable de l'héritage du roi David, c'est le fait d'être listé dans la généalogie du Messie Jésus-Christ, dont tous les ancêtres sont des pécheurs comme moi et des pécheurs comme toi. La repentance de David, puis le fait qu'il est venu en toute vulnérabilité vers Dieu, puis qu'il a dit « J'ai péché, pardonne-moi », ça a été récompensé par Dieu. Puis c'est pour ça que Dieu a utilisé David, non seulement pour développer son royaume, mais aussi pour engendrer le Messie et le Sauveur du monde. Donc, en lisant le psaume 51, je me dis qu'il faut vraiment remercier le Saint-Esprit quand on vit une conviction spirituelle par rapport à notre péché. Dieu, il ne va pas mépriser le cœur brisé et contrit qui vient à lui puis qui dit « J'ai besoin de toi, je ne peux plus rien faire ». Le besoin d'un sauveur, la réalisation du besoin d'un sauveur. Dieu peut tellement faire de grandes choses avec ça. C'est le cœur qui s'auto-justifie qui est un peu plus difficile, avec lequel c'est un peu plus difficile de travailler. Donc, remerciez le Saint-Esprit quand, comme David, vous faites la réalisation et la prise de conscience de votre péché. Mais je pense qu'en même temps, il faut faire attention, puis il faut distinguer la différence entre une conviction spirituelle et une condamnation du diable. Il faut se reposer dans la vérité de Romains 8, 1 et 2, qui dit « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. » Donc, en Jésus-Christ, il n'y a aucune condamnation. Donc, je me rappelle la première fois que moi-même, j'ai vraiment compris l'importance de venir au pied de la croix en repentance, puis la liberté que j'y trouvais. C'était il y a 2 ans, en fait, puis j'avais pris une série de décisions qui n'étaient pas sages avec des amis à moi, qui avaient vraiment favorisé la destruction dans ma vie. Puis je n'agissais pas comme quelqu'un qui professait Christ le devrait. Mais quand j'ai reconnu mon péché, c'est drôle parce qu'au début, j'ai dit, oh, OK, j'ai reconnu mon péché, il faut que je travaille fort pour surmonter ce péché dans ma vie. Mais ce que j'ai réalisé, c'était un long processus, mais j'ai réalisé au bout du compte que ça, c'est le contraire de l'Évangile. Nous sommes impuissants devant notre péché. C'est l'Esprit du Dieu vivant qui habite en nous, qui nous aide à surmonter le péché, puis qui nous délivre du fardeau du péché. Donc, comme David l'a fait, je suis venue à Dieu priant pour sa rédemption et pour sa restauration malgré mon indignité. Puis, j'ai réalisé que l'asservissement au péché n'est plus ma réalité, n'est plus la réalité de David, n'est plus notre réalité. Notre nouvelle réalité, c'est la liberté qu'on retrouve dans la délivrance avec Jésus-Christ. C'est ça le dénouement de notre histoire, c'est ça la continuation de notre histoire, c'est la liberté qu'on a en Jésus-Christ. Donc, je vous laisse avec Galates 5.1 pour ce dernier point. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Marchons dans cette liberté. Donc, ultimement, le péché n'est pas la fin de ton histoire, mais surtout, le péché n'est pas la fin de l'histoire de l'Évangile, puis ce, grâce à Jésus. Donc, je vous laisse avec cette citation par John Stott, que je vais essayer de lire lentement. « Mais nous ne pouvons pas échapper à l'embarras de se tenir nu devant Dieu. » Il est inutile d'essayer de se cacher et de se couvrir comme Adam et Ève dans le jardin. Nos tentatives d'auto-justification sont aussi inefficaces que leurs feuilles de figuier. Nous devons reconnaître notre nudité, voir le substitut divin en train de porter nos chiffons sales à notre place et lui permettre de nous vêtir avec sa propre justice. Donc, bref, voilà un peu les 3 points. Donc, viens à moi. Dieu nous dit « Viens à moi ». Car je t'aime, viens à moi car je suis miséricordieux, viens à moi pour être purifié et viens à moi car le péché n'était pas la fin de l'histoire du roi David puis il n'est pas la fin de notre histoire. Amen. Merci.